Merci. Je voudrais d'abord effectivement remercier Christian Morel et Michel Berry de m'avoir proposé de participer au débat de ce soir. En premier lieu, parce que ça m'a permis de disposer quelques mois avant sa parution du livre de Christian Morel. Sa lecture m'a passionné et j'ai admiré, comme aujourd'hui dans l'exposé qu'il vient de faire, la force d'une analyse sociologique que j'ai envie de qualifier de véritablement scientifique, tant par la qualité des observations expérimentales présentées que par l'analyse, la rigueur des analyses menées par l'auteur. Chacun mesure d'autre part l'importance des retombées pratiques de ses travaux dans de très nombreux domaines. Je voudrais, quant à moi, compléter cet exposé en m'en plaçant successivement de deux points de vue. D'abord, celui de l'ingénieur. Ensuite, et je le ferai de façon sans doute un peu provocante, celui du chercheur en gestion. Je commence donc par le point de vue d'un ingénieur. J'ai commencé ma carrière au sein de l'autorité de sûreté nucléaire, dans laquelle j'étais responsable de la division en charge du programme électronucléaire français. J'ai vécu en direct, quoique de l'autre côté de l'Atlantique, l'accident de Three Mile Island, dont je commencerai tout à l'heure par vous dire quelques mots. Comme Christian Morel, je vous ferai part des enseignements tirés de cet accident, mais, contrairement à lui, je ne vous parlerai pas de l'aspect sociologique des processus de décision, mais des enseignements techniques que l'on a pu tirer de cet accident pour parvenir à une très haute fiabilité. Dans un second temps, et au travers de quelques autres exemples, j'essaierai, toujours en tant qu'ingénieur, de vous faire part des nouveaux enjeux qu'implique cette fois dans les processus de conception et de maintenance la recherche de la très haute fiabilité que notre époque requiert dans tous les métiers à risque. L'accident de Three Mile Island s'est produit le 28 mars 1979. Très brièvement, la centrale nucléaire, qui était une centrale à eau sous pression de conception Babcock & Wilcox, avait la particularité de pouvoir laisser se former dans le circuit primaire des zones de vapeur susceptibles d'entraîner le blocage de la réfrigération du cœur du réacteur. Cette situation n'avait pas été prévue par le constructeur et les opérateurs, trompés par un indicateur de niveau d'eau qui était malencontreusement resté bloqué, n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions et ont laissé le cœur du réacteur monter à une température qui a entraîné sa fusion partielle. Mais contrairement à ce qui s'est passé dans les dramatiques accidents ultérieurs, la situation critique de la centrale a conduit à une mobilisation rapide des équipes de l'exploitant, du constructeur, ainsi que des autorités de sûreté américaines. Pour dire les choses de façon très brève, ce qui s'est passé a reposé sur l'équipe de crise, qui a réalisé à peu près un sans-faute, au sens où elle a réussi à poser le bon diagnostic et à reprendre la maîtrise de la situation avec des rejets de radioactivité dans l'environnement très limité. Ce serait le travail de Christian Morel, et il l'a probablement déjà fait, que d'analyser en détail le mode de fonctionnement de ces équipes. Je dirais seulement que les décisions prises n'étaient pas faciles à prendre. Il a fallu volontairement relâcher la vapeur du circuit primaire dans l'enceinte, et à l'époque, je me souviens que nous avions été très surpris de cette décision volontaire qui semblait aller dans le sens opposé à la sûreté, au confinement. Puis, et le faire jusqu'à un niveau où la pression descende suffisamment bas pour que les pompes d'injection basse pression puissent entrer en fonction. Il a ensuite fallu s'organiser pour faire baisser le plus vite possible la pression dans l'enceinte, puisque le cœur avait fondu, la pression pouvait être supérieure à ce que l'enceinte pouvait tolérer. Et enfin, il a fallu être capable d'approvisionner des filtres suffisamment nombreux et puissants pour pouvoir baisser aussi la pression de l'enceinte en faisant des rejets volontaires à travers ces filtres. Quels ont été les enseignements tirés de cet accident? Le premier a été le retour d'expérience, car il y avait eu des incidents précurseurs du même type, mais sans le concours de circonstances intervenues à Three Mile Island, c'est-à-dire sans le blocage d'un indicateur de niveau. Christian Morel en a parlé à de nombreuses reprises, c'est vrai aussi au plan technique. Une deuxième enseignement technique a été l'étude des états de fonctionnement du réacteur qui est venue compléter l'analyse des scénarios qui étaient privilégiés jusque-là. Une très grande attention a été portée aux interfaces homme-machine. C'était cette fois-ci les instruments que l'on met à la disposition des opérateurs pour comprendre dans quel état est la machine. Enfin, la révision des procédures de mobilisation et d'action en cas de crise, l'exemple de la mobilisation américaine qui a été, dans ce cas, une réussite, a été riche d'enseignements, mais n'a pas permis, dans tous les cas, de faire aussi bien. Si l'on cherche à prendre un peu de hauteur sur ces enseignements, on voit que la question centrale est celle de la construction par les intervenants d'une représentation de la machine. Tous, qu'il s'agisse des opérateurs ou de l'équipe de prise, ont eu une action réelle. Cependant, leurs décisions ne dépendent pas de l'état et des évolutions réelles de la machine, mais de la représentation que les intéressés construisent pour eux-mêmes et pour leurs équipes de cet état et de ces évolutions. La réflexion sur la façon dont nous construisons nos représentations et dont nous pensons nous assurer qu'elles sont fiables ou hautement fiables est donc au cœur de ce processus, et c'est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Je voudrais illustrer cet aspect des choses sur un second exemple, qui malheureusement est tragique, celui de l'accident Rio-Paris. Je ne reviendrai pas sur les détails qui commencent à être connus de cet accident. En revanche, je voudrais le rapprocher d'un incident survenu le 21 juillet dernier sur un vol Paris-Caracas, au cours duquel de forts vents descendants ont violemment entraîné l'avion vers le bas, le pilote automatique tentant automatiquement de contrebalancer au maximum cet effet. Au sortir des vents rabattants, le pilote automatique a commandé la montée la plus rapide possible de l'avion et a ainsi diminué sa vitesse par la reprise trop rapide d'altitude. Cela l'a rapproché de la vitesse de décrochage, je crois, à 5 nœuds près. Je ne sais pas si ce sont les pilotes qui ont volontairement repris la main ou si c'est le pilote automatique qui s'est de lui-même arrêté parce qu'il sortait de son domaine de fonctionnement, mais on était en plein jour, le commandant et les deux copilotes étaient à leur poste et les enseignements du vol Rio-Paris avaient été tirés. Ils ont réussi à comprendre la situation et ont fait les manœuvres appropriées pour reprendre la maîtrise du vol. Ce n'était pas facile. Beaucoup d'avions modernes ne sont plus équipés du vieux manche à balai qui donnait instantanément au pilote la sensation intuitive de l'orientation des ailerons arrière, et ce manche à balai a été remplacé par un joystick fonctionnant par impulsion, ce qui ne donne aucune sensation immédiate au pilote. Est-ce que les pilotes auraient pu faire aussi bien s'ils avaient été seulement deux à ce moment-là, s'ils avaient été en pleine nuit et s'ils avaient eu une situation dégradée d'appareil? Personne ne peut le dire. En tout cas, les machines sont globalement plus fiables que les hommes, mais lorsqu'elles sont défaillantes, les hommes doivent pouvoir rapidement se construire une représentation de leur état réel et de leur évolution réelle. L'interface homme-machine est donc, dans tous les domaines où une haute fiabilité est recherchée, un lieu où d'importants progrès doivent en permanence être trouvés. Paradoxalement, plus haute est la fiabilité de la machine, plus il est important qu'en cas de défaillance, elle donne les moyens aux opérateurs de se construire les bonnes représentations. L'objectif de très haute fiabilité implique souvent une complexité qui rend difficile cette représentation par les opérateurs, et ce qui leur rend la reprise en main de la machine très difficile. C'est d'ailleurs d'autant plus difficile que la haute fiabilité elle-même rend ces circonstances extrêmement rares et que les opérateurs n'ont donc pas, en général, pas d'expérience autre qu'en simulation. À titre de transition vers mes secondes remarques en tant qu'ingénieur, je ferai une observation. La haute fiabilité est plus facile à atteindre lorsqu'il existe une situation de référence plus sûre que les autres. C'est ce qui se passe par exemple sur les trains à grande vitesse. Dès lors que les automatismes détectent une défaillance, le pilotage automatique met la machine à l'arrêt avant de rendre la main aux opérateurs. Dans beaucoup des exemples qu'a cité Christian Morel et dans beaucoup de ceux que je cite, cette situation est impossible. Il n'y a pas d'état de référence sûr et les décisions comportent des risques intrinsèques. Dans les centrales nucléaires, la chute des barres vient automatiquement arrêter le réacteur, mais ça ne veut pas dire que l'évacuation de la puissance disparaît. La chute des barres ne déclenche que la réduction d'un facteur 20 environ de la puissance du réacteur, et donc, même après cet arrêt, il faut continuer. De la même façon, le fait que les trains s'arrêtent automatiquement quand il y a un problème, vient perturber l'exploitation des lignes. Et cette fois-ci, c'est la fiabilité des horaires qui se trouve mise en cause par la fiabilité des machines, des locomotives qui tirent ces trains. Pour continuer à remonter la chaîne technique, la recherche de la haute fiabilité implique aussi de nombreuses règles lors de la conception et de la construction de ces machines. Je ne vais pas ce soir détailler toutes les mesures prises, ni, comme l'a fait Christian Morel, essayer d'établir des méta-règles. En revanche, je voudrais me contenter, au travers d'un exemple, vous montrer à quel point il est difficile, au très haut niveau de fiabilité que recherche notre société, de s'assurer que la machine reste conforme à la représentation qu'on en a. Ford avait conçu un 4x4 avec un certain type de pneu Firestone. Aux essais, il était apparu que l'ensemble pneu et amortisseur était trop réactif avec la pression habituelle de 35 PSI des pneus, risquant d'entraîner un retournement du véhicule. En revanche, les mêmes pneus gonflés seulement à 26 PSI conduisaient à un comportement parfait du véhicule. Un peu plus tard, Firestone modifia le processus de fabrication de ce type de pneus et effectua de très nombreux tests, tous, bien sûr, à 35 PSI, en oubliant l'utilisation exceptionnelle faite de ces pneus à 26 PSI. De très nombreux accidents, et dont certains mortels, résultèrent de ces circonstances, et le constructeur a dû rappeler 13 millions de pneumatiques. Quand on analyse cette séquence, on s'aperçoit qu'il aurait fallu que le changement de processus de fabrication entraîne un changement de nomenclature qui aurait obligé les constructeurs à requalifier les nouveaux pneus avant d'en équiper les véhicules. Processus très lourd qui aurait pu faire reculer le fabricant de pneus, l'exigence de fiabilité pouvant ainsi s'opposer au risque inhérent à tout progrès technique. Ainsi, la haute fiabilité n'implique-t-elle pas seulement une conception hautement fiable, mais aussi un processus de surveillance technique qui assure qu'au fil du temps, la machine demeure conforme à sa conception initiale. C'est pour rendre compte de ces exigences que j'ai utilisé le mot de vigilance, non seulement sur le plan technique, mais encore dans le cadre plus large de la recherche en gestion et en économie. J'en viens ici à la seconde partie de mon exposé. Par ce mot de vigilance, je désigne cette activité qui consiste, en vue d'une éventuelle action, à élaborer une représentation de son environnement pour ensuite s'assurer de la réalité, de la conformité de la réalité avec cette représentation et en fonction de cette réalité, agir. Il y a ainsi la vigilance du guetteur qui, en identifier un danger potentiel, s'organise pour surveiller et se prépare à agir au cas où l'événement redouté surviendrait. C'est ce type de vigilance qui est à l'œuvre dans beaucoup des exemples cités par Christian Morel, ainsi que dans ceux que je viens moi-même d'évoquer brièvement. En un sens, beaucoup de défauts de fiabilité sont des défauts de vigilance. Mais il y a une deuxième forme de vigilance, celle du chasseur, qui au lieu de redouter un événement est à l'affût. C'est ce second type de vigilance qui pousse les hommes à innover, les industriels à aller toujours plus loin dans les recherches de performances techniques et les commerçants à s'orienter sans cesse vers la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Chacun sait que les activités tertiaires fondées sur la vigilance représentent une part croissante de l'activité économique mondiale, sans doute près de 80% pour celle de notre pays. La référence idéologique d'une activité économique qui serait fondée seulement sur le capital et le travail n'est donc plus aujourd'hui pertinente en France, qu'au mieux à 20%. Et si l'on analyse le fonctionnement de l'industrie allemande, on devine même que l'activité industrielle contient une large part de sous-traitance, associant la vigilance du chasseur qui va trouver les meilleurs sous-traitants et celle du guetteur qui surveille la production. La vigilance n'est donc pas seulement l'apanage du secteur tertiaire, elle pénètre aussi largement les deux autres secteurs. La part de la vigilance dans l'activité économique est souvent négligée. Et j'en viens à quelques exemples à nouveau. On peut par exemple regarder la titrisation de l'immobilier américain accompagnée de l'appel à des sociétés spécialisées dans le rehaussement des crédits qui a abouti à la création des fameux subprimes. On avait ainsi construit une formidable machine à annihiler la vigilance tant chez les banquiers que chez leurs clients. Pas étonnant dès lors que le système est paru facile à utiliser pendant une certaine période, jusqu'à son explosion que chacun connaît ici en 2007. De la même façon, les CDS, c'est-à-dire les crédits défaut de swap, et bien d'autres produits dérivés reposent sur un défaut de vigilance organisé du même type. Chaque intervenant prend sa marge avant, entre guillemets, de se couvrir auprès d'autres intervenants, de sorte que chacun ne supporte plus qu'un faible risque à condition que les autres tiennent. C'est une sorte de Ponzi en négatif où chacun reporte les risques qu'il a pris sur de nouveaux partenaires. Au final, personne ne sait exactement quel est exactement son risque, la vigilance étant souvent limitée à la consultation du rating établi par les agences de notation. Comme si la vigilance de tous pouvait être déléguée à quelques-uns. Tout ceci nous amène à penser que les méthodes de vigilance pour parvenir à une haute fiabilité devraient aussi trouver leur champ d'application dans le cadre de la gestion des entreprises, voire dans celui de l'économie politique. C'est un sujet que Christian Morel abordait à la fin de son exposé. C'est une vaste tâche. Puisque chacun le sait, les décisions des banques sont prises en général après l'avis et avec l'aval de comités de risque. Or, on constate aujourd'hui que ces comités n'ont pas fonctionné. De même, les grands pays industrialisés ont pris des décisions qui, pour certains d'entre eux, les ont conduits à un endettement massif qui pose aujourd'hui problème. Le paradoxe est que toutes les décisions qui ont été prises et dont la fiabilité se révèle a priori désastreuse l'ont été alors que tous les responsables disposaient de beaucoup plus de temps que les pilotes dans un cockpit ou l'équipage d'un sous-marin nucléaire. Sur le plan de la recherche en gestion, le travail de Christian Morel nous interpelle donc particulièrement, puisque certaines décisions prises dans le calme apparent s'avèrent moins bonnes que celles prises dans l'urgence. Je voudrais donc essayer, en terminant, d'évoquer quelques pistes qui peuvent expliquer ce paradoxe. Tout d'abord, dans la vie des affaires, les deux formes de vigilance s'affrontent. Les décideurs cherchent à éviter les risques, mais ils veulent aussi faire progresser leur entreprise. Notion qui, je le souligne, ne coïncide pas avec la recherche du profit. En d'autres termes, les tendances à la destinationnite, pour reprendre un terme qu'utilise Christian Morel, sont beaucoup plus fortes. En second lieu, dans la gestion, les horizons temporels, les identités et les objectifs des intervenants, les événements extérieurs à prendre en compte sont beaucoup plus nombreux et divers dans la vie des affaires et dans la vie économique, beaucoup plus nombreuses donc que dans le cockpit d'un avion. Bien loin de voir dans cette diversité un handicap insurmontable qui interdirait la recherche de la haute fiabilité en matière de gestion, je crois que ces difficultés ne peuvent qu'inciter à renforcer et à adapter en matière de gestion les méthodes issues de la recherche de la plus haute fiabilité. Mais en gardant à l'esprit un point, c'est que les contradictions qui peuvent exister entre les objectifs, entre les horizons de temps, entre les identités des différents intervenants, peuvent rendre difficile l'application de ces méthodes. Dans la fin de son exposé, Christian Morel mettait en opposition les méthodes de management habituelles et les méthodes issues de la recherche de la haute fiabilité, en montrant combien ces méthodes pouvaient apporter. Je répondrai, sans vouloir lancer tout de suite le débat encore, en attendant encore quelques instants, je répondrai que les décisions hautement fiables doivent dire pour qui, dans quel but, dans quel contexte, et c'est là que les décisions du manager sont souvent plus difficiles que celles d'un pilote dans un avion, même si les enjeux, évidemment, sont moindres, puisqu'il est rare qu'il s'agisse de vie humaine en jeu. Toujours pour expliquer ce paradoxe de la difficulté des décisions de gestion, quand on voudrait hautement fiable, je citerai Claude Rivlin, qui a montré que les décisions importantes en matière de gestion sont souvent prises au dernier moment, dans l'urgence. Précisément parce que l'on a tout le temps, on a souvent la tentation d'attendre, ne serait-ce que pour faire face aux urgences qui précèdent, ne serait-ce aussi que pour avoir le maximum d'informations au moment où la décision doit vraiment être prise. Et ces processus qui conduisent à l'urgence ne permettent plus forcément la prise de décision dans les conditions, dans des réunions du type de celles dont Christian Morel nous montre l'importance. On le voit, et c'est sur cette, je terminerai sur cette petite provocation. Les analyses menées par Christian Morel ne s'adressent pas seulement aux spécialistes des métiers à haute fiabilité qu'il nous a présentés. Elles contiennent des problématiques et des méthodes qui nous concernent tous, mais elles me semblent donc particulièrement porteuses d'avenir. Mais elles sont pour les managers et les gestionnaires, donc dans cette deuxième approche, quelquefois largement inapplicables, ou quelquefois elles représentent un monde qui est très loin des contradictions dans lesquelles se débattent ces acteurs. Mais c'est sur ce point, je voudrais encore remercier Michel Berry et Christian Morel de m'avoir invité à participer à ce débat auquel je souhaite maintenant participer avec la salle. Merci de votre attention.